Sais-tu pourquoi on appelle cette rivière Massacre? Elle aurait pu s'appeler Passelana Rencontrée ou encore de l'eau couchée. Les rivières ne coulent pas par leur bon vouloir. Comme les arbres, elles prennent toute racine quelque part. Ce quelque part, c'est la source. Nous aussi, humains, nous puisons nos sources quelque part. Et comme la sève dans le cœur du bois de chêne, le sang que toujours nous partageons avec l'autre, parents ou grands-parents nous ramènent au passé. Il était une fois deux pays. Les pays naissent comme les premiers jours de l'an. Toujours un jour, toujours longtemps. Longtemps avant nous. Ces deux pays à l'histoire commune partageaient la même île. L'une à l'est du côté du soleil levant et l'autre à l'ouest du côté du soleil mourant. Je répète ma question. Sais-tu pourquoi la rivière porte son nom? Son emblème, sa marque de naissance comme une seconde peau, une qui pourrit, une qui brûle quand on s'en approche et qui nous colle, nous étouffe, nous abîme?
De la rivière, je ne connais que son nom d'emprunt. Massacre. Verbe du premier groupe dont le gérondif passé se dit « en ayant massacré ». Elle se compte sur les doigts d'une main les rivières qui portent des noms de verbes. Là encore, pourquoi ce verbe et pas un autre? Massacre. Trois syllabes, deux S au milieu. C'est peut-être sa forme qui rappelle un S qui explique le nom de la rivière. Qu'en sais-je? Son nom, tout comme sa source, me précède. Je ne connais, moi, que les choses nées après moi.
Tu connais bien la misère alors qu'elle t'a précédé de quelques siècles.
Tu as raison. Je ne connais que quelque chose, et d'elles, la plupart sont nées après moi. Par exemple, je connais ce mur de l'autre côté de la rivière. Comme pour une grossesse, je l'ai vu en gestation. J'ai même assisté à sa formation. D'abord dans la tête des gens, puis le long de cette ligne invisible qu'on appelle la frontière. Il n'a pas toujours fait cette taille. Au début, il s'agissait d'un petit amas de blocs, de béton et de haine. Il arrivait même que des enfants jouent à être des enfants, sautent par-dessus. Puis, il grandit et grandit. Et grandit encore jusqu'à dépasser d'une bonne tête chacun des habitants vivant à la lisière de Massacre.
Le mur est là pour séparer, alors il sépare. Il n'a jamais eu d'autre fonction. S'il nous laissait voir de l'autre côté, ça ne serait plus un mur, mais une barrière. Les barrières s'ouvrent et se referment pour laisser passer les bienvenus. Les murs, il faut les abattre.
Alors, dis-moi pourquoi la rivière porte ce nom?
Elle ne s'est pas toujours appelée ainsi. Elle doit son nom au sang qui a coulé trois jours durant il y a déjà 85 ans. Je devais avoir ton âge. Nous habitions une maisonnette comme celle-ci de l'autre côté de la frontière, chez le voisin, en Dominicanie. Vois-tu, dans tous les pays du monde, les pauvres vivent pareil, avec l'essentiel. Notre essentiel se composait d'un réchaud, de quelques assiettes, de gobelets en faïence, d'une table et d'un lit. Nous n'avions pas de miroir chez nous. Nous n'en avions pas besoin. Mon père travaillait dans les bateaux et le soir, quand la fée nous prenait par les tripes, ma mère me faisait asseoir entre ses cuisses pour me coiffer avec de l'huile de Palma Christi. Mon père, lui, béni soit-il, n'oubliait jamais de ramener dans ses poches des bouts de canne à sucre que nous mâchouillons jusqu'à épuisement. Combien de fois ne me suis-je écoulée sur notre couche, fatiguée, les vêtements mouillés du jus sucré de la canne à sucre? Canne sucrée, canne ananas, canne de clairin, canne de tous les mots, canne de toutes les mains. Combien de mains as-tu emporté avec toi dans les usines sucrières du temps de la colonie? Une, deux, trois, un millier? Autant de mains que d'esclaves. Avec les bateaux, ce ne fut plus des mains d'esclaves que tu emportais avec toi, mais des mains par tête de nègres haïtiens. C'est dur d'être un nègre en République dominicaine quand la main pour te nourrir se lève un beau jour et se fait la malle. Ce fut le cas pour beaucoup, dont mon père. Il perdit la main, il perdit la langue. Quand on perd la tête, la langue est la première à partir, la traîtresse. Elle commence par délirer, elle se délie avec elle les années d'entraînement et de dressage pour la rendre docile et sage, vole en éclat. Montre-moi ta langue. Ouvre la bouche. Ne bouge pas.
Laisse ma langue tranquille. Comme celle de mes ancêtres, elle donne à ma mâchoire cette forme propre au marron. Si j'aime la bâtie qui mûrit au premier jour d'été, c'est parce qu'elle fond sur cette même langue que je tire pour faire la grimace au mauvais temps. Je la porte depuis ma naissance, comme ma peau. Nous avons grandi, elle et moi, baignés par le soleil et le vent du nordé. Petite, tous les ans, je la sortais pour que les médecins dits sans frontières y déposent une mixture qui ne m'a épargnée ni de la typhoïde, ni de la malaria. Adolescente, j'ai voulu faire comme les adultes et je l'ai glissée de force dans la bouche de Jacob. Mais ce dernier l'a mordu si fort que je me jurais de ne plus recommencer. Que cherches-tu à ma langue ? Tu n'y trouveras rien que quelques mots de deux langues jumelles et des jurons que je fais pousser en prévision du jour où je tiendrai tête à ma dent désulmée.
Une langue, ça se garde toute une vie. C'est comme ces choses que les mères achètent et accumulent en disant « Tu n'auras pas à acheter ça quand tu seras mariée. » Nous emmagasinons des mots, des compliments, des jurons. Et quand notre bouche ne peut plus de garder tout ça à l'intérieur, elle laisse sortir la langue comme une rivière en crue. Ne perds pas ton temps à faire de la place à des ulmés dans ta bouche. Sais-tu qu'une langue, c'est comme un verbe qu'on conjugue? La langue est plurielle. Regarde, de notre côté de l'île, on dit qu'il y en a deux. Celle qui se trouve tout en haut de la montagne avec les belles maisons et les bourgeoises en robe longue et celle que tu verras se baigner nue dans la rivière. Si tu me demandes, je te dirai qu'il y en existe une dernière, plus discrète, plus sauvage, une qu'on porte précieusement au creux de nos reins. Quand tu prendras la frontière, tu devras laisser derrière toi une partie de ton parler. Laisse la rivière l'emporter, ne lutte pas, sinon elle pourrait se noyer.
C'est ce qui t'est arrivé? Ta langue s'est noyée?
Quand mon père perdit la langue, ce qui devait arriver arriva. Nous ne mourûmes pas de faim, mais ce n'est pas faute d'avoir failli mourir. Un soir, toutes les machettes en Dominicani firent chorale, et ensemble, elles se parèrent de mes malfaisantes et marchèrent sur les têtes des diablos. Les diablos haïtianos.
Les as-tu vus, ces têtes de nègres? Les as-tu vus tomber et rouler loin de leur cou, loin de leur corps, de leur tronc, de leurs membres supérieurs et inférieurs?
Je les ai vus, comme je te vois, comme je vois la rivière couler. Je les ai vus comme je vois passer les années, les saisons, les cyclones et les sécheresses qui apportent avec elles, et la faim, et la rage, et la peine. J'ai vu passer le temps de mes yeux tombeaux. Avec ma bouche en fosse commune, j'ai essayé de dire le bruit de la machette qui fend l'air pour s'abattre sur une nuque. Elle est solide, la nuque de nègre haïtien. Mais de ma gorge, comme d'un cadavre, en putréfaction ne sortaient que des vers. Alors je me suis tue. Enlève-moi cette bouche puante, cette bouche complice, cette bouche de silence.
Laisse ta bouche tranquille. Elle a l'âge de tes yeux. Je veux que tu me dises, raconte-moi là-bas. Les maisons, les hommes, passe par la rivière. C'est de là que tu es venue, non? Ce soir-là, c'est elle que tu as prise.
Je connais la route, oui. Celle qui passe par la rivière. Je ne la connais que dans un sens. Et de là-bas, je n'ai des souvenirs que des trois nuits que nous avons passées, ma mère et moi, mon frère et des voisins aussi, Diablos, à courir en esquivant machettes et coups de hache pour nous réfugier ici de notre côté de la rivière. La route n'est pas droite. Elle coupe à travers des bois aussi grands que des adolescents qui ne font pas leur âge. L'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est un mythe que l'autre a trouvé pour rendre plus vert son gazon et plus drôle son histoire. Irais-tu, toi, avec ton sac en bandoulière chez le voisin si tu savais que chez lui seul sa devanture est propre, son café mal préparé, sa terre aride et son riz pas cuit?
Parle-moi de cette nuit. Je t'écoute. Dis-moi la devanture du voisin.
Le soleil s'était levé à l'aube comme tous les jours. L'horizon pareil à lui-même était devant nos yeux et la force de l'homme rendait les jours meilleurs à force de travail. Quelques chiens s'inquiétaient du nuage qui planait sur nos têtes. Mais nous ne le voyons pas et les femmes étaient trop occupées à porter le monde et son poids pour mettre à l'abri leurs enfants. Ceux qui s'aimaient le faisaient calmement, poétiquement et de leur amour naissaient des liens aussi profonds que les racines d'un grand arbre des tropiques. Au bord du pays, la frontière n'existait plus. Les langues et les peuples se mélangeaient pour ne faire qu'un. nord-est pour l'un, ouest pour l'autre. Il n'y avait que des gens qui se levaient le matin et se couchaient le soir, le corps cassé d'êtres humains, le cœur heureux d'être en vie. Le seul sang qui coulait ces jours-ci venait du ventre des femmes et le cou des nègres et négresses haïtiennes était bien accroché à leur corps. Tellement que sur leur tête fière, les hommes transportaient la canne à sucre jusque dans des camions qui sillonnaient les pays de long en large. Et les femmes, des piles de vêtements qu'elles lavaient ensuite dans l'eau de la rivière commune. La rivière témoin.
Quand vinrent les vêpres?
Avec la messe du soir. Je ne sais plus si elles vinrent après ou après les hommes en bottes et uniformes de l'armée. Peut-être qu'ils arrivèrent ensemble. Ils lirent la missive du leader suprême sur l'autel avec à droite l'ostentoire et à gauche deux burettes d'huile sainte. Le padre avait entendu nos prières. Face au désespoir du peuple, à sa misère, il avait pris une décision. Il allait agir. Nous étions tous contents qu'il agisse. Juan Pedro qui avait perdu son travail car sa main droite pourrissait à vue d'œil. Jésus là qui faisait l'aller-retour tous les jours des deux côtés de la rivière pour revendre et acheter ses rejets. Jean-Pierre qui parlait à peine pagnol. Maria qui laissait entrer chez elle tous les hommes en manque d'amour. Mes parents, nos voisins, moi, mon frère, tous. Nous étions fiers que le padre pense à nous et veuille prendre des mesures. Ferait-il pleuvoir pour sauver nos récoltes? Viendrait-il jeter des pesos depuis la vitre de sa voiture afin que nous puissions mettre à manger sur nos tables? Aménageait-il de nouveaux locaux pour les travailleurs de la canne? Augmenterait-il le salaire des travailleurs?
Le fit-il?
Le salaire des travailleurs n'augmenta pas. La pourriture qui s'était attaquée à la main droite de Juan s'attaqua à la gauche. Et comme un âne malade qu'on abat, on l'amputa du manger et du boire. Il mourut quelques jours après, des suites de son mal selon le médecin, de chagrin selon ma mère. Un homme sans ses mains est un homme sans lendemain, dit-elle en entrant dans la case. Aucune des choses que nous espérions ne se réalisa, ni les maisons pour les travailleurs, ni les repas pour leurs enfants. À la place, nous vîmes se lever comme un seul homme, d'énormes bouquins qui laissaient derrière eux une odeur nauséabonde que rien ne pouvait chasser. Ça ne se chasse pas l'odeur de la chair humaine qui brûle, tout comme la trace que laisse son sang sur le sol. Ceux qui sont partis de l'autre côté de l'île et sont revenus disent que des arbres ont poussé à l'endroit où les corps ont brûlé. Peut-être est-ce la vie après la mort que nous promettent prêtres et pasteurs? Devenir arbre, faire racine et se laisser pousser des branches et un tronc?
Que fit le padre?
À peine la fumée s'était estompée de l'horizon, El Supremo nous rendit visite un dimanche matin. Le coq avait chanté tôt avant de se réfugier dans son arbre. Les rues étaient propres et les enfants portaient leurs habits de Pâques. Nous étions au mois d'octobre, il ventait, mais il restait encore un peu du soleil d'été. Vêtu d'un uniforme bleu avec autour du cou un foulard rouge et un sourire gras sur la face, il lança de sa voiture une poignée de pesos que tous nous bousculâmes pour ramasser. En une seconde, la vie était devenue belle. Ce jour-là, 300 Haïtiens furent immolés à Banica.
300?
300. Comme les 300 affiches collées sur un mur vert olive pour signaler les disparitions. 300. Comme les 300 prénoms qui égrenaient le vieux père Abel pour rappeler que ces personnes étaient recherchées. 300. Comme les 300 pesos que certains avaient taxés aux rescapés afin de les héberger chez eux un jour ou deux. 300. Comme un loto trois chiffres qu'on joue jour après jour, mais qui ne sort jamais.
300 donc.
Le 2 octobre, le président fit organiser une fête à l'église de Dajabón où il prononça un discours dans lequel il déclara qu'il éliminerait du pays tous les chiens, les porcs et les haïtiens. C'est de la bouche de ma mère que j'appris qu'il s'agissait du 2 octobre. C'était pour moi un jour comme un autre. Et je devais ce jour-là faire des choses d'enfant avec d'autres enfants, car c'est Sandro qui avait mon âge et ma taille qui me demanda le premier si j'allais mourir parce que j'étais haïtienne.
Alors, es-tu morte?
Oui, un peu. Qui sait? On meurt toujours un peu chaque fois que notre meurt. Encore plus si avec cet autre, on partage une terre, une histoire, une langue, un pays. Sandro, caché dans un ravin, assista au passage d'un groupe d'Haïtiens menés comme du bétail à la file indienne, attachés solidement par des cordes de jute. Le groupe était mené par des soldats. Un abattait sa machette et dans ce geste qu'on connaît bien pour l'avoir répété des années durant dans les plantations de canne d'un bout à l'autre de l'île, il laissait retomber lourdement son bras. Au final, les têtes qui tombent ne ressemblent-elles pas à des noix de coco qui se détachent de leur arbre?
Peut-être. Mais je n'ai jamais vu une mère secouer sa noix de coco car elle était tombée en apprenant à marcher.
Le passé
est passé. Et s'il est bien de s'en souvenir pour ne pas le répéter, il faut savoir le mettre au placard et laisser la place pour l'avenir. Moi, je veux une rivière sans mur à sa lisière. Je veux des levées de soleil assurées de le voir se coucher. Je veux des pluies à n'en plus finir. De celles qui font sortir les ménagères seaux à la main pour les poser sous des gouttières. Celles qui font danser les enfants nus. Celles qui lavent les péchés et font pester les habitants des maisons en tôle. Il y a quelques années, il a plu. Il a plu des jours durant et les sources qu'on croyait taries, celles qui boudaient les paysans et faisaient grève d'eau douce, se sont remises à couler. Il a plu pareil des deux côtés de la rivière. Et dans cette pluie torrentielle que certains disaient divine, des hommes, des femmes, des enfants et autres babioles qu'on croyait partis sont partis pour toujours. Ces mêmes mains que j'ai vues des deux côtés de la rivière, femmes et hommes maudire, et la pluie qui était tombée, et le lit de la rivière qui avait gonflé, et les sources qu'on croyait taries. Je n'ai pas vu les femmes voisines pleurer avec leur langue, mais avec leurs yeux. Et ici, ce n'est pas au passé que les mères cherchèrent désespérément une main, un pied, un vêtement, quelque chose de leur défunt à enterrer dignement. Je veux de l'avenir à ne plus savoir quoi en faire. Je veux des histoires d'amour et de nouveaux morts. Parce que toute chose vivante est vouée à mourir.
Et toute chose vivante mourra. Mais la mort, comme une plaie qui tombe sur le juste, est chose condamnable quand elle n'arrive pas dans le calme d'un soir d'été.
Les morts des villages voisins ne méritaient-ils pas leur soir d'été? Réponds-moi. Réponds-moi.
Te souviens-tu de Robert? Le vieil alcoolomore dans son sommeil, celui dont les enfants, dont il ne s'était jamais occupé d'ailleurs, ont pleuré 3 jours le départ? Toi, comme le nombre de dents, de cheveux et de doigts qu'il me reste. Toi, comme le salaire d'un travailleur des batailles. Toi, comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 jours, les enfants pleurèrent. Car c'est ce qu'on fait lorsque l'on perd un être cher. On le pleure. Et on lui fait une place dans sa tête et dans sa bouche. Tes lèvres seraient-elles comme ton sac, trop pleines de toi et de choses nouvelles à découvrir pour que tu ne daignes pas y faire de la place pour ceux qui ont été et ne sont plus?
Il y a dans ma bouche plus de gens qu'il en faut pour faire pays. Et comme toi, la plupart sont cadavres. D'abord, il y a Esther, violée et livrée aux chiens malgré son nom de reine. Puis Sandra, Caroline, Anne, Catherine, Rebecca, qu'avaient-elles en commun autre que leur atroce destin? Un quartier comme celui-ci, à la seule différence qu'elles n'avaient pas une rivière à portée de main à laquelle se raccrocher pour un demain meilleur. Il y a des hommes aussi qui habitent ma bouche. Certains du côté des victimes d'armes à feu, d'autres du côté des tireurs. Il faut de tout pour faire un monde.
Et que fais-tu de toutes ces dépouilles?
Je les porte. Je dis leur nom les soirs de pleine lune. Je leur jette du café le matin. Et parfois, je vais jusqu'aux gros arbres aussi vieux que l'indépendance qui marque le début du pays, notre pays. Et je leur allume un cierge.
Tu sais donc prendre soin de tes morts.
En effet. Et comme l'eau de la rivière qui se renouvelle à mesure qu'elle coule, tous les matins, je vais aux nouvelles. Et je fais récolte de mots. Il y en a autant qu'il y a d'hommes. Et les hommes ont la souffrance facile. Les femmes aussi. Mais ça, on ne le dit jamais. Ou du moins, rarement. Pas assez souvent, en tout cas.
Tu t'égares.
C'est ma langue qui devient folle. Tu vois, avec tes bêtises du passé, je ne sais déjà plus parler avec les mots de mon âge. Déjà, dans la bouche, j'ai une langue folle qui un jour causera ma perte.
Mords-la.
Quoi?
Mords-la et tourne-la 7 fois dans ta bouche.
Maudite, un jour, elle me tuera. Un jour, je dirai les choses qu'il ne faut pas et ce jour-là, on pointera le doigt vers moi en m'accusant de sorcellerie. Je dirai que c'est la faute à ma langue qui ne sait ni se taire ni se mentir, mais ça sera trop tard. On m'aura déjà ligoté et jeté aux mains des méchants.
Quels méchants?
Tous. Il y a dans toutes les histoires des méchants. Dans la sienne, des gens affamés qui ont cru que moins de bouches à nourrir étaient proportionnelles ou égales à plus de pain à leur table. Dans la mienne, une armée de 10 000. 10 000 hommes méchants, parce que méchants, l'arme à la main et la rage au cœur. Tu vois, même le mal a évolué vers une version plus moderne, plus à jour, plus méchante. Les machettes qui te faisaient jadis courir sont désormais des armes dites automatiques.
Automa quoi?
Automatique. C'est comme ça qu'on appelle les armes qui migrent jusqu'à chez nous. Celles qui n'ont besoin ni du courage de nos forgerons, ni du vent de nos vents pour naître. Celles qui n'ont pas besoin de la bénédiction d'Ogou et qui ne portent de nos ancêtres ni le souvenir, ni le nom. Elles naissent comme les tempêtes, subitement. Et comme elles s'abattent sur nous, sans prévenir et font plier nos corps sous leur poids. Des balles, ils appellent ça. As-tu déjà vu un amoncellement de corps troués de partout, comme une râpe? On dirait le mur en chaume de l'Éternel, le vieux Makout qui espère le retour de son bourreau. Qui eût cru qu'un corps humain puisse compter autant d'orifices? Après le massacre qui fit 100 de veuves et 10 fois plus d'orphelins, j'ai pris mes jambes et je suis descendue voir de mes yeux les dégâts.
Et qu'as-tu vu?
Un cimetière de balles. Si nous prenions racine comme poussent les arbres, les morts que j'ai vus là auraient fait récolte de balles, de morts et de blessés.
C'est une bonne chose, les récoltes.
Certainement.
Un acquis de la liberté.
Oui, un cadeau des Blancs, même que s'appelle la démocratie. Je m'en vais, je pars.
Tu l'as déjà dit.
J'emporte avec moi ma tête et la mémoire du fleuve. Il paraît qu'une nuit, elle a coulé fort et longtemps. Et comme une femme qui enfante de son ventre remontait ce que de mémoire devait être des hommes, des femmes et des enfants. Il est dit de ce côté de la terre ferme que le sol trembla de voir ses fils fuir son sein. Et ainsi, le sépulcre que tout Alma Mater réserve à ses enfants.
Qui t'a raconté cette histoire?
Je ne sais plus. Ça devait être une de ces femmes qui, comme toi, s'est jetée dans la rivière pour se laisser planter ici. Il vient tous les jours des corps, comme il vient la rosée chaque matin dès l'aube.
Des corps, il en vient de partout.
En effet. Et chacun porte en lui 2 histoires. Celle de la route qu'il a suivie jusqu'ici et celle du pourquoi. En général, les 2 sont liés. Au début, quand ils arrivaient des corps, moins un bras, un œil ou une jambe, ils se disaient que le membre s'était amputé de son porteur.
Qu'est-ce qui pousse un pied à s'amputer?
D'avoir trop manifesté. Le peuple d'Israël lui-même n'aurait jamais autant soulevé de la poussière sur son passage.
Et les bras? Pourquoi un bras tomberait-il subitement?
Pour montrer sa défaite? Ne dit-on pas baisser les bras pour parler d'une situation insurmontable?
Difficile de changer une situation quand on ne peut même plus compter sur ses bras et ses jambes.
Il paraît aussi que certains sont tombés contre leur gré. Ça, c'est Richard qui me l'a dit. Dans sa fuite pour échapper à la mort, il a laissé derrière lui un œil qu'il avait depuis sa naissance. Tu as remarqué le nombre de rescapés qui vivent au bord de cette rivière? Est-ce qu'elle est maudite?
À mon avis, c'est plutôt le contraire. Nous ne sommes jamais que des arbres. L'écorce et les branches en moins. Et un arbre a besoin d'eau pour vivre. Tu vois cet avocatier dont les racines baignent dans le fleuve? Il est plus vieux que toi, que moi et peut-être ma mère, paix à son âme. L'avait-elle aussi connu quand, comme toi, elle regardait vers l'est, croyant y voir son avenir? Pas une année depuis qu'il est adulte, il n'a boudé la récolte. Et quand l'été, il fait chaud à repousser les bras d'un amour, sous sa large couronne de feuilles, il fait bon s'asseoir et parler du bon temps. Pourtant, son frère jumeau, à l'entrée de la ville, loin de l'eau, qui a son âge et son histoire, attendait la première dent d'un poussin pour laisser mûrir un fuit. Nous avons tous besoin d'eau, surtout ceux à qui il manque un peu d'eux-mêmes, car ceux-là, en plus de devoir guérir leurs souvenirs, doivent aussi désinfecter leurs blessures.
À nos morts, alors. Dans certains pays, les défunts sont déterrés, lavés, habillés. Et ceux qui un jour les ont aimés ou haïs, les portent sur leur dos, dans toute la ville, avant de les enterrer de nouveau. Une façon de faire peau neuve de la mort. Quand nous ont parvenu les premières nouvelles de mort, de viol et de massacre, nous en avons à peine bronché. Nous en avions connu d'autres. Un massacre est chez nous comme un cyclone. Il en est un tous les 4 ans. Pour tuer des innocents. Toujours la faute à pas de chance. Quand on a peu et qu'on voit affluer une marée humaine, on se dit qu'elle vient comme viennent les inondations pour nous prendre ce qu'on a. Mais voilà, nous le peuple de la rivière, nous n'avons que notre histoire où les morts s'entassent à hauteur d'hommes et à partager. Le père Mathieu dit que tout est passager, même la misère du monde. Il n'a pas dû passer beaucoup de temps de notre côté de la rivière pour dire ça. Je pense qu'il a trouvé ce mensonge dans un des livres qu'il traîne toujours avec lui. Il aime ça. Ça lui donne un air supérieur. Et comme ça, il peut nous sortir des absurdités de toutes sortes sur un ton intelligent. Comme quand Joseph nous parle des endroits où il ira quand il quittera. Et la rivière, et l'île.
Et toi?
Et moi quoi?
Où iras-tu quand tu auras quitté la rivière?
Je sais pas. Je n'y ai jamais réfléchi.
Que comptes-tu faire? Traverser la rivière en sa largeur, sauter par-dessus le mur en construction de l'autre côté et marcher jusqu'à épuisement?
N'est-ce pas ce que tu as fait?
Sauf que moi, je ne suis pas partie. Je suis rentrée. Il y a dans le retour l'espoir d'un quelqu'un ou d'un quelque part qui t'attend. Qu'est-ce qui t'espère de l'autre côté?
Arrête, sorcière, avec tes questions. Vipère! Tu as passé ta vie dans le silence pour au final retrouver ta voix et parler comme une frisée. Tais-toi. Grande. Parle-moi. Raconte-moi.
Te dire quoi? Que le ciel est bleu et que bleu il sera ici comme ailleurs? Que même si les arbres portent des feuilles vertes comme le mauvais sang, leurs racines et leurs troncs ont la couleur de ta peau? Quand tu es née, ta peau était comme la mienne. Flétrie, comme si dans le ventre de ta mère, tu as déjà vécu 100 000 vies. S'il ne faisait aucun doute que tu tenais d'elle tes yeux de noir profond et ton sourire d'enfant qui ne devait jamais te quitter, il en allait autrement pour ta peau. Au contraire, de nous qui avons toujours porté la nôtre, sombre comme une nuit sans étoiles, toi, la tienne était différente.
C'est pour ça qu'on dit que je ne suis pas de la rivière?
Les bonnes gens ne sont pas méchantes, mais ça ne les dispense pas d'être bêtes. As-tu déjà vu deux pierres jumelles dans cette rivière? Si même les pierres qui ne sont pourtant pas le fruit de l'amour qu'on peut ressentir ne sont pas pareilles, pourquoi veux-tu, toi, ma petite fille, ressembler à quelqu'un d'autre?
Parle-moi de la ville.
Laquelle?
N'importe. Quand tu as fui le bruit des machettes, où es-tu allée?
J'ai pris, comme beaucoup, le chemin des montagnes. Par je ne sais quel miracle, j'atterris à Dajabón. Je n'y étais allée qu'une fois avec ma mère quand j'étais enfant. Je n'en gardais qu'un vague souvenir. À mon arrivée, la première chose que je vis fut l'arc que le généralissimo avait fait construire. Pieds nus et cheveux défaits, je ne passais pas inaperçu. On me lança des branches de persil et je suppose qu'on m'injuria aussi. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. J'avais pris la route avec mon frère et ma mère, mais nous fûmes séparés en chemin. J'avais rejoint un groupe de 2 femmes et 3 hommes qui fuyaient eux aussi ce qu'ils avaient réussi à construire chez hôtes. Le passage s'élevait à 50 pesos, autant dire une fortune. Je payais de ma personne. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Alors, après ce qui me parut une éternité, nous rejoignîmes le sol dur de Dajabón.
Pourquoi elle s'appelle Dajabón, la ville?
Je ne sais pas. Vu qu'elle se trouve en face, de l'autre côté de la rivière, ça doit vouloir dire quelque chose comme Marassa.
Si j'ai un enfant un jour, je l'appellerai Dajabón.
Pourquoi?
Oh, c'est joli. Et puis, dans Dajabón, il n'y a pas de R, comme dans Pereril. Donc, pas de piège.
Tu veux la suite de l'histoire ou préfères-tu continuer à fantasmer sur de potentiels enfants que tu mettras une fois là-bas? Je ne sais comment je traversais l'eau du fleuve. Je laissais aller mon corps pagnol, mon corps nouvellement orphelin, lourd d'une famille que j'aimais mais qui devait être mort à cette heure précise, alors que je tentais désespérément de rejoindre l'autre rive. Je me réveillais quelques jours plus tard. Il faisait le même temps et le chant des oiseaux avait sa tonalité habituelle. Mais des nonnes au visage inquiet vinrent me nourrir, m'apprirent que j'étais sur la terre de Christophe et que je n'avais plus à m'en faire.
Christophe, le marchand de trempé à l'entrée de la ville?
Non. Christophe de la citadelle et du palais aux 365 portes.
La ville danse ce soir. Un groupe d'hommes et de femmes à peine en vie est arrivé aujourd'hui. Ils portaient avec eux une hécatombe. Dans leurs yeux, il y avait des quartiers vidés, des femmes violées, des maris brûlés vifs et des maisons incendiées. Mais voilà que déjà la ville passe à autre chose. La lune s'est faite belle. Elle en a même profité pour sortir son ventre rond.
Laisse danser la ville. Il faut bien quelque chose pour dire à ceux qui viennent que la vie ne s'arrête pas à ceux qui meurent. Il y a dans toute catastrophe des chanceux pour survivre. D'après toi, qui écrit la légende des morts?
Qui?
Les survivants. Comment saurais-tu qu'au milieu de massacres, l'eau est trouble et les cailloux glissants s'il n'y avait pas eu moi et mon échappée pour te dire de ne te fier qu'au rocher plat et non pas au rond?
Et quand il ne restera plus personne?
Il restera bien quelques histoires qui auront tellement marqué les esprits qu'elles deviendront plus grandes que leurs conteurs, plus grandes que même leurs acteurs.
Ah.
Cric.
Ah, je n'aime pas les devinettes.
Joue le jeu pour moi, s'il te plaît. Quand tu partiras, je tomberai de nouveau dans le silence et ce manguier qui en sait plus qu'il n'y paraît sur les habitants de cette ville n'aura plus l'occasion d'entendre d'histoire. Cric.
Crac.
Il était une fois un homme dont le courage faisait trembler ses ennemis rien qu'en entendant son nom. Il s'appelait François. François comme son père avant lui qui avait préféré périr une balle dans le dos tué comme un lâche plutôt que de souffrir l'esclavage. Tu sais, cette chose qui enlève la dignité. Avant les armes à feu, avant la démocratie, avant le persil, il y avait l'esclavage pour user nos corps et nourrir la mort. Mais si comme son père, François portait le nom de ses maîtres, comme sa mère qui, elle, venait de Guinée, loin de nos rivières et de nos arbres sacrés, François portait un autre nom. Un nom secret d'où il puisait son courage. Un nom que seul lui et ses esprits connaissaient.
Quel était-il?
Je ne sais pas. Le propre des noms secrets, c'est de le rester jusqu'à la mort. Un jour, lors d'un combat particulièrement violent sur le champ de bataille, on le visa d'un boulet de canon. Le coup partit dans un bruit sec. François tomba de son cheval, emporté par le tir. L'ennemi rechargea, visa, puis de nouveau tira, faisant tomber le chapeau du valeureux soldat, révélant ainsi nu son front fier sur lequel se lisait une détermination farouche et une rage de vaincre.
Que fit-il?
Il se redressa de toute sa hauteur, brandit son mousquet et cria si fort que sa voix couvrit le bruit de la bataille. « En avant! En avant! Aujourd'hui, nous nous libérerons ou nous mourrons en essayant. En avant! En avant! »
Est-ce qu'il mourut?
Oui, il mourut.
Ah.
Mais pas ce jour-là. Son adversaire, le sanguinaire Rochambeau, eut vent de ses exploits et hors du temps, traversa le champ de bataille pour saluer François qui venait de laisser là le nom de son maître pour renaître Capois. Capois la mort, l'homme qui défia la faucheuse et en sortit victorieux.
Et ensuite?
Il y avait autour d'eux plus de cadavres qu'ils ne pouvaient en compter. Mais comme je disais, il y a dans toute catastrophe des chanceux pour survivre. Un survivant de la bataille raconta cette histoire à sa fille, qui la raconta à la sienne, ainsi de suite, jusqu'à ma mère qui me la raconta. J'attends de toi que cette histoire vive encore 100 générations. Tu vois, tu pars et avec toi, tu emmènes aussi l'histoire de ton peuple, sa légende, son mythe. Oublie, madame, désolée son avarice. Cette femme a tué son fils en pensant qu'il l'avait volé. C'est aux histoires comme celle-ci que tu devrais faire de la place dans ta langue. Même que tu pourrais la raconter à l'autre dans sa langue quand tu auras appris à rouler tes ailes comme des airs.
Calme-toi. Je ne pars pas aux îles Turques. Je vais juste là, chez le voisin. Et puis, comme la terre qui tourne sur elle-même pour chasser la poussière de son dos, tout a allé à son retour et je compte bien traverser ma sacre dans le sens inverse pour te donner des nouvelles des machettes et des têtes de nègres qu'elles ont épargnées. Si je dois survivre et devenir la détentrice des légendes, il me faudra bien une oreille dans laquelle débitent les mots que j'aurais mis sur la peur, l'angoisse, le bonheur, l'amour et les autres émotions que je verrai. Je quitte ma caille, mais qui dit que ma caille doit me quitter? Il faudra bien que les armes tombent à court de munitions un jour. Il faudra bien que les dépotes meurent et ils n'auront pas toujours assez d'héritiers pour prendre la relève. Il faudra bien que les maisons qui brûlent refroidissent un jour et sur leurs cendres que d'autres choses soient construites. Nadège avait laissé une bougie allumée un soir. C'était l'époque où des bandits traversaient la rivière pour voler nos chèvres et les plus valeureux nos bœufs. Sa maison brûla rapiétaire. Mais aujourd'hui, à l'endroit même où elle s'était écroulée et roulée dans la terre, se dresse son chez-elle, plus grand, plus beau et tellement plus solide qu'elle prévoit d'y ouvrir une boutique. Il faudra bien que les quartiers vidés se remplissent de nouveau et qu'un jour, tous ceux qui ont trouvé refuge à la lisière de massacre laissent enfin reposer leurs morts en paix. Ce jour-là, je reviendrai. Partout au village, on chantera des chants en mon nom. Et sur mon passage, on laissera tomber des pétales et des fleurs de laurier comme on le fait le dimanche rameau. Je serai pareil au fils prodigue. Parti, certes, mais revenu en cette terre qui est mienne pour n'en plus jamais être chassé. Et les bourreaux qui nous auront opprimés si longtemps finiront poussière. Et pour eux, il n'y aura ni larmes, ni regrets, ni légendes. Ni légendes. Laisse-moi partir. Laisse-moi suivre le chant des sirènes jusqu'à la rivière. Si derrière les montagnes se cachent d'autres montagnes, laisse-moi de mes yeux voir leurs formes et rouler dans le vert de leurs herbes folles. S'il y en a encore des têtes de nègres haïtiens pour tomber de leurs épaules à cause de quelques mauvais voisins, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi de la mienne. En bon voisinage, nous ferons plus tard le décompte des morts. Règlement pas gâté, tes amis, si m'étais pas jamais refusé.
Et ce monde, le côté gauche de massacre ne te suffit-il pas? C'est le côté le plus beau. Celui du cœur.
J'habite 27 700 km² d'un monde qui ne me reconnaît pas, qui ne m'a jamais reconnue.
Cette île, c'est comme le ciel. Il s'arrête là où s'arrête l'horizon, et d'horizon, il y en a autant qu'il y en a Dieu qui regarde. Je ne te dirai pas de rester. Je ne te demanderai pas de regarder à hauteur de tes yeux. Regarde au-delà. Mais souviens-toi qu'il faut à tout départ un arrivé, et la terre étant comme une orange qui tient dans la main, c'est peut-être ici, devant la rivière, que s'arrêteront tes pieds quand viendra pour toi la fin de route. Pars, prends ton sac et tes rêves. Va voir le monde. Mets en plein la vue. Puis, reviens.
Je m'en vais. Il est l'heure.
Très bien. Mais laisse-moi t'accompagner. Je m'arrêterai là où le voudra la fatigue. Comme ça, je pourrai t'apprendre les dernières choses qui te seront utiles durant ton voyage.
D'accord.
Mon enfant, écoute-moi. La première chose dont tu devras te souvenir quand je te laisserai, c'est de toujours avoir devant ta porte un balai neuf que tu placeras bien en évidence pour garder loin de ta maison le voleur et le mauvais œil.
Oui, Grande.
Une fois couché, si tu entends la frisée, ne bouge pas. Elles viennent la nuit de tout leur poids paralyser leurs victimes. Et si tu ne gardes pas ton calme pendant leur passage, elles peuvent l'emmener avec elles.
Oui, Grande.
Ne mange pas debout. Le chemin qui t'attend est long et tu auras besoin de force pour en voir le bout. Donc, quand tu manges, assure-toi d'être assise, le dos droit. Sinon, c'est jusqu'à tes pieds qu'ira ton repas et tu ne pourras plus avancer.
Oui, Gun.
Il t'arrivera parfois de te sentir seule et tu chercheras peut-être sur un mur ou par terre ton ombre pour te rassurer. Il sera toujours là, mais prends garde à ne pas jouer avec. Tu ne pars pas pour hanter les murs, mais pour vivre au grand jour. Prends garde.
Oui, Gun, oui, oui. Oui.
Tu connais l'eau douce de la rivière au fond de laquelle dorment les cailloux, mais il existe aussi des étendues d'eau plus vastes que le monde dans tes yeux et plus salées que tes larmes. S'il te vient l'envie de t'y baigner, laisse-les quelques babioles en or ou en argent que tu auras accumulées sur la plage. La sirène est certes généreuse, mais ne résiste pas à ce qui brille. Elle serait capable de te prendre et de t'emmener avec elle dans son royaume marin alors que tu ne sais même pas nager.
Oui, Grande, oui, oui.
N'accepte pas toutes les mains tendues. Il y a chez certains des paumes comme des poignards prêts à te transporter. D'autres portent leur malice dans la main et ceux-là sont les pires car c'est par la magie, le talon des lâches qu'ils te font du mal.
Oui, oui.
Tu vois cette roche? Elle ne connaîtra jamais la fraîcheur de l'eau, contrairement à la roche bien calée au fond de la rivière. Certaines sont nées pour être des cailloux au soleil, comme toi, moi et ta défunte mère. Nous lavons, nous repassons. Et le poids du monde, quel qu'il soit, n'est jamais trop lourd pour notre dos en galets. Quand tu seras de l'autre côté, je ne serai plus dans ton champ de vision. Moi qui t'ai donné le sien. Comme j'ai dit, je l'avais donné à ta mère, je ne t'oublierai pas. Du ciel, tu te mettras sous la langue quand la faim te jouera des tours. C'est un gage contre la faim et le mauvais œil. Ah, ça, c'est Marie, là, cette mère. Elle sait tout de la souffrance de celles qui regardent grandir, puis partir leurs enfants. S'il arrive que je te manque, tu pourras toujours réciter un « Je vous salue en mon nom » qui me fera siffler les oreilles.
Je dois y aller.
Oui. Pardon, je ne sais pas dire au revoir. Comment fait-on?
Comme ça.
Thank you. Merci. 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 Mer